diffuser une émission de télévision ou de radio dans la langue de Goethe. Le premier de ces détracteurs, chez lequel on percevait d'une façon très claire cette attitude hostile par principe, par conjoint, allait vers l'Allemagne, était Olivier Toff, qui s'est véritablement emporté, parce que lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il s'est trouvé à court d'arguments, tiens, il s'est fâché, et dans un débat, se fâcher, il est bien connu que cela ne sert pas à grand-chose. La deuxième personne est une dame blanchie sous la rouleau politique, ancienne conseillère du président Georges Pompidou, c'est Mme Marie-France Caro, faisait Griseline. Cela vous amuse, je tiens à dire que je n'ai rien contre Mme Caro en particulier, mais j'ai vu dans le regard, dans l'attitude de Mme Caro, d'abord un soutien silencieux mais réel et consistant à ce que disait M. Todd, et d'autre part, j'ai vu dans l'attitude de Mme Caro une attitude déjà anachronique par rapport à la NAP. Alors certes, Mme Caro était tout à fait auprès du président Pompidou il y a maintenant 4 bonnes décennies. Certes, il y a 4 bonnes décennies, les rapports entre les deux pays n'étaient pas ceux qu'ils sont aujourd'hui. Enfin, j'ai été frappé par cette attitude d'indignation qu'il y avait hier soir dans le comportement de Mme Caro. Alors pourquoi ces attitudes indignées, pourquoi ces comportements pseudo-vertueux? Eh bien c'est tout simplement parce qu'on retrouve une opposition qui est intensifiée par la situation politique et économique actuelle entre les deux pays. Mais derrière cette opposition, il y a bien évidemment la question, dans certains esprits, je dis bien dans certains esprits, pas dans tous, de savoir qui doit avoir dans ce binôme, je ne dirais pas standard, je dirais dans ce binôme, qui doit avoir le leadership. On sait, par exemple, en ce qui concerne les questions diplomatiques, qu'il y a une rivalité très très ancienne entre les Dorset, le ministère français des Affaires étrangères, et son équivalent allemand, Laos Vertikes Amt, ça c'est une notion qui est bien connue. Et à un moment où l'Europe est dans la crise que l'on sait, à un moment où dans notre pays on se fait beaucoup de soucis, la prospérité allemande, le confort, la qualité de vie qui existe, nous savons bien ici, à 4 km de la frontière, qui existe certes ici, mais qui existe aussi chez notre voisin oriental, notre voisin plus près, à l'est. Tout cela inquiète, et tout cela inquiète plus particulièrement quand on aborde la question du taux du chômage. Les perspectives pour 2014, on le sait tous, ne sont pas très bonnes, et là, une formule relativement douce, les perspectives de l'emploi et par conséquence le taux de chômage pour 2014 ne sont pas très bonnes. Les experts entre eux aussi entre 13 et 15% hélas pour la France, alors qu'en Allemagne le chômage d'ici l'année prochaine devrait continuer à rester sur la ligne où il se trouve actuellement, c'est-à-dire 5-6%. Et on voit bien qu'il y a dans tout cela, dans son comportement, dans ses attitudes, et aussi dans ses attitudes relatives à des sujets de société, on voit bien qu'il y a à nouveau le coq gaulois qui est là, qui regarde avec une certaine agressivité l'aigle allemand si on utilise deux classique. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que je me suis intéressé un peu ensuite beaucoup, et après passionnément, à l'Allemagne, parce que je viens d'une famille de la vieille France, il est parfait, je dois le confesser, une famille de la vieille France dans laquelle il y avait malheureusement, dans les années 60, alors que j'étais un enfant, une haine véritable, non pas de la République fédérale allemande, parce qu'on ne parlait pas de la République fédérale allemande, on disait toujours les Allemands. Alors cette haine venait d'un événement terrible survenu dans cette famille et survenu malheureusement dans de très nombreuses autres familles françaises et allemandes aussi. Il y avait un grand oncle qui avait été parmi les premières victimes des combats du printemps 1940. Mais j'avais par un arrière-grand-père qui me rappelait régulièrement quelle fierté il avait eue en août 1914 d'enterrer sa cave pour que les Allemands ne voient pas la moindre goutte de ses chères bouteilles. Et cet homme, qui bien entendu était dans la souffrance hein, d'avoir fait un de ses fils donc, au printemps 1940, était soutenu en cela par son autre fils, mon grand-père, donc, qui avait cette haine absolue de l'Allemagne. Et je dis bien de l'Allemagne. Je ne savais pas, j'insiste sur ce point à ce moment-là, ce que c'était que la République fédérale d'Allemagne. Je ne savais pas non plus ce que c'était que l'Allemagne éternelle, c'est-à-dire celle de Goethe, de Beethoven, de Schiller, de Hegel, de Thomas Mann et d'autres. Et je pense que si parmi vous, il y a un ou une psychanalyste qui peut peut-être transformer cette table en divan, au bout de quelques séances, on arrivera peut-être à tester la raison pour laquelle j'ai été pris progressivement de cet intérêt très vif pour l'Allemagne. Intérêt qui a commencé d'abord en ce qui concerne la question de la musique. Mais fréquentant l'Allemagne depuis maintenant 1966, puisque malgré l'hostilité de mon grand-père, mes parents avaient décidé que je ferais allemand en première langue étrangère, décision d'ailleurs au sujet de laquelle on leur a formulé beaucoup de reproches, j'avais été envoyé en 1966, la deuxième qui a été envoyée était 1966, ma sœur et moi, quand j'avais 14 ans, à Berlin, pour découvrir dans le cadre d'échanges scolaires la capitale, l'ancienne capitale et l'actuelle capitale d'un pays qui était depuis 5 ans, depuis le mois d'août 1961, divisé. Et nous avions eu l'occasion, c'était évidemment très très important, indépendamment de la visite de rigueur au buste de Néfertiti et de la promenade entre autres sur ce table et de rencontre avec des camarades allemands de notre âge, nous avions eu aussi l'occasion d'aller passer une journée à Berlin-Est et nous avions vu ce qu'était la République démocratique allemande. République démocratique allemande où je suis retourné un certain nombre de fois depuis adulte pour participer à des émissions musicales, mais aussi pour donner des conférences ou prendre part à des colloques, ce qui fait qu'aujourd'hui, en Allemagne, je m'intéresse beaucoup lorsque je suis au milieu de personnes beaucoup plus jeunes que moi, que je suis regardé comme une espèce de tout temps gamon français qui a connu les réalités de la République démocratique allemande. Et c'est donc cette fréquentation, ce compagnonnage, cette habitude d'aller en Allemagne depuis maintenant près d'un demi-siècle. C'est donc la lecture des penseurs allemands, des écrivains, des philosophes, des historiens. C'est donc un amour très grand pour la musique de l'Allemagne, et plus particulièrement pour la musique d'un compositeur pour le moins problématique, c'est-à-dire Richard Wagner, que je suis en aiguille, je me suis dit qu'il pourrait être intéressant que je porte mon regard, mon témoignage sur l'Allemagne, sur ce qu'elle est aujourd'hui, sur ce qu'elle a de commun avec nous, mais surtout sur les différences qu'elle présente avec sa voisine occidentale, c'est-à-dire la France. Étant bien entendu que d'abord Personne d'entre nous n'aura jamais la naïveté de s'imaginer que l'herbe chez le voisin est plus verte, d'une part, étant bien entendu également que, de même que les Français ont des qualités exceptionnelles et aussi des défauts, qui faisaient dire en particulier à Jean Cocteau ceci, les Français sont des Italiens de mauvaise humeur, de façon symétrique, les Allemands ont aussi des particularités qui parfois sont un peu difficiles. Et dans ce ménage, franco-allemand, on voit bien que, à cause d'histoire, de vision du monde, à cause de deux langues qui ne fonctionnent évidemment pas du tout de la même manière, il est parfois très difficile de trouver un bon dénominateur commun. Et les fâcheries que nous observons actuellement le montrent. Avant que Catherine Trottmann puisse prendre la parole, je voudrais vous faire part d'un souci qui, de mon point de vue, est un souci très grand, puisque je parlais il y a quelques instants de la question de la langue. Je m'explique. Nous sommes à un moment de l'histoire de notre pays où l'État, ayant édicté ce que l'on appelle la RGPP, c'est-à-dire la Révision Générale des Politiques Publiques, a décidé d'aliéner, c'est-à-dire de vendre, un certain nombre de bâtiments qui sont des bâtiments publics, des bâtiments de la République, des bâtiments de l'État. Par exemple, le très bel hôtel particulier de la rue Saint-Dominique à Paris, où se trouvait autrefois, entre guillemets, la direction de la musique, du théâtre et des spectacles du ministère de la Culture a été vendue. Mais ces ventes de biens immobiliers de l'État se font aussi à l'étranger et particulièrement en Allemagne. Il règne depuis maintenant 2 semaines une émotion justifiée chez les Allemands, mais aussi chez les Français s'intéresse particulièrement à l'Allemagne, après que l'on ait appris que le ministère des Affaires étrangères ait décidé de vendre la Maison de France qui se trouve à Berlin sur le cours Fürstenplatz. Qu'est-ce que c'est que la Maison de France? C'est d'abord un magnifique immeuble, un immeuble des années 20, un immeuble donc qui se trouve sur une des artères les plus prestigieuses de Berlin. Et la Maison de France est le siège de l'Institut français de Berlin, c'est-à-dire le lieu où, en particulier, sont donnés des cours de langue et, a fortiori, de littérature et de civilisation française. Dans le même temps, et ça, ce n'est pas nouveau, on a fermé ces dernières années un certain nombre d'instituts français en République fédérale d'Allemagne, ce qui montre, quelles que soient les orientations politiques des gouvernements qui se succèdent, ce qui montre d'une façon tout à fait claire que là aussi, on est dans la contradiction, on est dans le paradoxe. On est d'autant plus dans le paradoxe que l'équivalent allemand des instituts français, c'est-à-dire le Goethe-Institut, l'Institut Goethe, lui, prospère. Il prospère dans des territoires où, a priori, bien a priori, l'apprentissage de la langue allemande pourrait poser certaines difficultés intellectuelles. Je me limiterai à un seul exemple, c'est celui de l'État d'Israël. Il est apparu au cours d'une conversation avec le docteur Kirsch, le directeur de l'Institut de l'Institut Goethe de la ville, il y a 2 ans, que celui-ci me disait que il avait tellement d'élèves, quand on sait ce dont quoi est né l'État d'Israël. Il me disait il y a 2 ans qu'il avait tellement d'élèves qu'il était obligé maintenant de louer des salles de classe dans des bâtiments extérieurs au Goethe-Institut, tellement il y a ce besoin d'apprendre l'allemand. En particulier, bien entendu, en tout cas, parmi les familles. Ashkenaz venu de l'Allemagne, de l'espace germanophone, pour retrouver des racines, mais aussi, d'une façon générale, pour redécouvrir ou découvrir plutôt un système de pensée, avec la dialectique de Kant, de Hegel et de quelques autres en particulier, que l'on sait. Mais ces cours de langue, restons toujours pendant quelques instants à Tel Aviv, ces cours de langue ont aussi un succès considérable parce que la langue allemande aujourd'hui, au Goethe-Institut, est enseignée aussi comme une langue professionnelle. Il y a un an, le président du Goethe-Institut a publié dans l'hebdomadaire Zeit un article dans lequel il disait que l'enseignement de l'allemand dans un certain nombre de pays, en Israël, mais aussi dans le Hinterland, c'est-à-dire le dire, naturel de l'Allemagne, c'est-à-dire dans l'Europe très centrale et orientale, avait pour but, évidemment, de déceler des esprits déjà brillants, potentiellement à très élevés, de leur faire apprendre un allemand de niveau académique, donc universitaire, de manière à ce qu'ensuite ils puissent aller sur le marché du travail, puisqu'on sait très très bien que la situation de la démographie allemande est telle aujourd'hui qu'il faut, bien entendu, comme ailleurs, pour financer les retraites, il faut évidemment avoir des salariés qui, dans un certain nombre de domaines, soient notamment des chercheurs de pointe. Et pendant ce temps-là, reconnaissons-le, nous ne faisons pas un bon point de vue, le salon qui est personnel, mais qui a été lié sur un certain nombre d'observations, nous ne faisons pas preuve d'une pugnacité nécessaire en ce qui concerne l'enseignement du français dans un certain nombre de pays. Cet exemple de la langue, évidemment, appartient aux différentes réflexions que j'ai développées dans cet ouvrage. Voilà. J'ai déjà beaucoup trop parlé et je